Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 4 novembre 1999 à Saint-Jeanin.
Nous allons entrer maintenant, après avoir vu ces différents préambules, quelle est la réponse que nous donnons lorsque nous voulons creuser l'intelligibilité radicale de l'autre. Et nous pouvons très bien nous prendre l'ami. Si nous sommes intelligents, nous passons très vite du crapaud à l'ami. Parce que le crapaud, il ne nous dira pas grand-chose. D'abord, il est muet. Je comprends difficilement le langage du crapaud. Il m'agace la nuit, quand je suis auprès d'un petit lac, et je les entends le soir, tous crier. Ils crient famine. Ça va pas très loin. Je vois que celui qui m'intéresse, c'est l'homme. L'homme a une richesse de vie et donc sans doute d'être assez unique. Et tout homme. Et donc, l'homme, où est-ce que je le connais le mieux? C'est par l'amour d'amitié. Parce que dans l'ami, je n'hésite pas à reconnaître qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui me dépasse. J'aime de découvrir dans l'ami quelque chose qui me dépasse. Oui, et c'est peut-être le signe de la véritable amitié. Quand je domine mon ami, au fond, je ne l'aime pas vraiment. Je l'aime pour moi. Et donc, mon amour est plus que l'ami. La véritable expérience que je fais avec l'ami, c'est de découvrir l'autre, un homme que j'admire et que j'aime, et qui a quelque chose de plus que moi. Ça ne veut pas dire du tout que je dis tout de suite, ah, il est plus intelligent que moi. Non, il y a quelque chose, c'est lui. C'est lui que je respecte. Le grand signe de l'amitié, c'est le respect à l'égard de l'autre. Et un respect qui grandit. Parce que c'est toujours l'autre. Et ce n'est plus, quand ce n'est plus l'autre, ce n'est plus l'ami. C'est très important de découvrir ça, vous voyez, radicalement. Parce que c'est ça qui maintient l'expérience de l'amour d'amitié comme le point de départ de ma métaphysique. Je sais que c'est l'ami, l'être, la personne humaine que je respecte le plus. Quand je rencontre un grand savant, un grand artiste, je suis impressionné, je suis heureux de rencontrer un grand artiste, mais je le connais par ses œuvres. Et lui, il m'échappe. L'ami, même s'il n'a pas beaucoup d'œuvres, ça m'est égal. Je ne me suis pas arrêté à ses œuvres. C'est quelque chose d'intéressant. Je suis très heureux qu'il puisse faire quelque chose, réaliser quelque chose. Mais c'est lui. C'est toujours lui qui s'impose à moi. Vous voyez, l'ami, comme expérience, a ceci de très très particulier, c'est que je suis vraiment en présence de l'autre. Quand Lévinas cherche toujours à découvrir l'autre et que ça lui échappe, c'est qu'il ne prend pas cette voix, cette petite voix, qui est l'amour d'amitié, qui fait que je rencontre l'autre, toujours le même et jamais le même. Il y a une admiration qui continue tout le temps. L'amitié ne vieillit pas. Quand c'est vraiment l'amitié, ça ne vieillit pas. Je ne m'ennuie jamais avec un ami. Parce que tout prend un caractère très particulier, commun, avec moi, et différent. Donc, si je cherche en métaphysique à connaître l'être, je suis persuadé que la réalité qui me dévoilera le mieux l'être, c'est mon ami. Parce que il est un homme ou une femme, c'est l'autre, que je connais le mieux. Or, je cherche à savoir ce qu'est l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Comparativement à mon ami, toutes les autres réalités sont lointaines. Toutes les autres réalités sont lointaines. Mon ami est proche. Je peux être vrai avec lui tout de suite. Avec les autres, il y a un poids conditionnel, conventionnel. Et la convention, ce n'est pas du tout l'être. Hein. Le conventionnel, c'est le fruit d'une civilisation, le fruit de... C'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on s'adresse à quelqu'un, c'est comme ça qu'on doit faire. Et une éducation ancestrale. On voit très bien. Un Européen... Et dans l'européen, il y a le germanique, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a l'italien, il y a le français. Et on ne se salue pas de la même façon. On ne s'aborde pas de la même manière. C'est très curieux. Puis il y a l'américain. Et l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Il y a le canadien. Si vous les regardez tous au point de vue de l'être, ils existent tous. C'est vrai. L'être, ce chose merveilleuse, c'est qu'il fait un œcuménisme fondamental. Vous ne serez jamais pour l'œcuménisme si vous ne découvrez pas l'être. Ça, c'est la meilleure des propagandes pour la métaphysique, aujourd'hui. Si vous ne découvrez pas l'être, vous ne serez jamais œcuménique. Ça, c'est une très belle proposition à affirmer. Et vous comprenez. Parce que l'être, c'est tout, tous. Et tant que vous n'avez pas découvert l'être de l'autre, vous restez conventionnel. Vous restez devant quelqu'un qui est tout poussiéreux. La vieille statue. La vieille statue du Suédois. La vieille statue de l'Africain. On m'a parlé d'un Africain. J'ai lu le livre de Jung qui m'a montré le fond différents pays. Et j'aborde lui comme ça. Effrayant. Pourquoi vous avez toujours peur d'affronter un psychanalyste ? Parce que vous dites, entre lui et moi, il y a ses idées. Il a un schème, cet psychanalyste. Je suis africain. Ah donc, tu as ses complexes. Je suis français. Ah donc, tu as ses complexes. Je suis anglais. Ah donc. C'est curieux, ça. Il y a un schème. Il ne me voit pas. Il me voit avec des lunettes de psychanalyste. Et les lunettes de psychanalyste fait que, à la place de me voir tel que je suis moi maintenant, il me voit en fonction de mon passé. J'ai fait des grosses bêtises. Alors il me voit à travers ces grosses bêtises. C'est pour ça que je ne l'aime pas. Parce que ça, c'est passé. Ça s'est passé complètement. C'est curieux, ça. On fait toute cette expérience-là, je ne sais pas, mais ceux qui aiment de voir un psychanalyste, il y en a peut-être. Hein. Si j'étais plus libre, je vous dirais que celui qui aime voir un psychanalyste, que ça le soulage de voir un psychanalyste, qu'il est tout heureux d'en rencontrer un, dès le matin, ça le soulage. Je dirais pourquoi. Moi, au point de vue apostolique, je suis très content de le rencontrer. Si c'est un ami, je suis très content, mais c'est l'ami. Et puis s'il commence à être psychanalyste avec moi, tais-toi, hein, je suis un ami. Tu ne vas quand même pas faire ma psychanalyse. Alors tu n'es plus mon ami. C'est bien évident. Si tu veux ta psychanalyse avec moi, non, tu n'es plus mon ami. Moi je vis. J'ai dépassé tout ça. C'est moi maintenant. C'est vrai. L'être, c'est ce que vous êtes maintenant. Ce n'est pas ce que vous étiez hier. Ce que vous étiez hier, c'est de la poussière. C'est poussiéreux. C'est passé. Vous avez survécu. C'est peut-être une montagne énorme de dépasser ça. Des complexes énormes, je me souviens. Quand je disais à un psychanalyste, le nombre de frères et sœurs que j'avais, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour dépasser tout ça et atteindre vos parents? Je lui ai dit, c'était très simple. Chacun de mes frères et de mes sœurs me permettait de mieux connaître mes parents. C'est vrai ce que vous dites? Mais oui, parfaitement. Ah non, c'était un conditionnement. Un conditionnement énorme. Vous aviez des frères aînés. Comment vous avez fait? C'était pas vos parents, les frères aînés? Mais pas du tout. Il était complètement étonné de ça. J'avais jamais considéré que mes frères et sœurs étaient des médiateurs entre moi et mes parents. Et que j'avais accès directement. Pour lui, il y avait tout ce dépassement qu'il fallait faire. Avant de découvrir, vous voyez, l'être actuel, il faut repasser tout l'être passé. Je suis. Je ne dis pas en voyant mon ami, tu as été. Tu seras un grand capitaine, tu seras un grand saint dans le ciel. Oui, oui, j'ai le droit de le faire au point de vue surnaturel, parce que j'ai une vision d'éternité. Ah! La vision d'éternité rend actuel le passé. Alors, quand vous dites ça à un psychanalyste, c'est affolant. Parce que c'est la vision du chrétien. Vous voyez, il n'y a rien de plus curieux de voir que fête de la Toussaint, le lendemain, les morts. Moi, c'est ça, affolant, quoi. Il n'y a plus de mort, puisque c'est la fête de tous les saints. Ils sont tous passés par la mort. Et ils sont vivants maintenant. Ah non, tout ça, c'est extraordinaire comme gymnastique liturgique. Hein. Et le sacré-saint, c'est très bien que ça change. Hein. C'est pas les mêmes ornements, c'est tout est changé. Toutes les pots de fleurs disparaissent. Pour la nudité de la mort. Et chaque année, c'est comme ça. C'est curieux. Il n'y a pas de tremplin. On ne fait pas la fête de la guedille. De la Toussaint, on passe à la fête des morts. Gymnastique extraordinaire. Hein. Et au point de vue chrétien, ce n'est pas une gymnastique, c'est le Christ. Ressuscité. Et tout le monde est ressuscité avec lui. Le Christ mort. Et tout le monde est mort avec lui. Et alors c'est ça qui... Comme pauvre Merleau-Ponty... Quand il avait 45 ans, il était affolé. Alors, il disait, la, La vie chrétienne, ça brouille tout. C'est la mélasse. C'est vrai, c'est la mélasse de la vie et de la mort. Le chrétien est à la fois un moribond et un ressuscité. Et c'est vrai, dans notre vie, c'est comme ça. Alors, je comprends que c'est pas commode, hein. La métaphysique, c'est l'éveil de l'intelligence. Indépendamment de la foi. Si je suis un vrai croyant de foi catholique, je peux dire ceci est indépendamment de ma foi. Pour un luthérien, impossible. Il y a un blocage. Un blocage. C'est pour ça que M. Bourgeois avait parfaitement raison de dire quand Hegel dit « Je suis luthérien », ça change tout. Et l'être qui me révèle le mieux la réalité, disons la réalité que j'expérimente, la réalité qui m'exprime le mieux l'être, c'est mon ami. Ah, ça change tout, hein. La métaphysique, c'est pas abstrait, c'est mon ami. Le jour où je serai capable de dire ça en toute vérité, c'est mon ami qui me révèle le mieux ce qui est. Vous comprenez que le jugement d'existence n'est pas du tout abstrait. C'est très concret. Et tant que vous ne pouvez pas dire ça en toute vérité, vous vivez en psychanalyste. Vous vivez sur le passé, sur l'avenir. Vous n'avez pas atteint l'être actuel. Il y a un voile, le passé, l'avenir, qui vous empêche de saisir ce qui est. Ceci est. C'est mon ami. C'est mon ami qui est pour moi de la manière la plus actuelle, la plus vraie. Je crois que nous devons commencer la métaphysique comme ça aujourd'hui. En face de Hegel, en face de la phénoménologie. C'est quand même très important. Mon ami me révèle de la manière la plus profonde ce qu'est le contenu le plus actuel et le plus pur de ceci est. Mon ami, il est. Vous voyez, au point de vue de la foi, quel est votre jugement de foi le plus profond? C'est lorsque Dieu dit « je suis ». C'est l'alliance de mon intelligence avec Dieu. Je sais que cette alliance a été brisée et qu'elle est revenue avec Jésus. Et donc mon acte de foi le plus fort, c'est lorsque je peux dire avec Jésus, Père, Abba, Pater, il est. Là, j'ai parfaitement le droit de faire ça en tant que philosophe, si je suis chrétien. Si je suis chrétien, j'ai des réserves philosophiques étonnantes. Et comme celui qui a une bonne cave, qui a des réserves de vin merveilleux, parce qu'il fait vieillir le vin. En tant que chrétien, j'ai des réserves métaphysiques merveilleuses. J'ai la foi. Et la foi me donne un jugement d'existence, d'éternité. C'est extraordinaire. Vous pouvez dire avec Jésus, Père, celui qui est le Créateur est Père. Et donc, il est tout proche de moi. Autrement, il ne serait pas Père. Il est Père, donc il est tout proche de moi. Il est source de ma vie, source de mon être, source de tout. Père, Oui, c'est ça, mes réserves métaphysiques. Ce sont bien des réserves. Ça ne me gêne pas du tout. Mais quand je me mets à douter un peu, est-ce que ma métaphysique de l'être, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Il y a d'autres choses. Pourquoi ne pas être hégélien quand même? C'est tellement plus agréable. Tout le monde me recevrait. Tous les instituts philosophiques me regarderaient en disant, vous avez bien choisi de devenir un spécialiste de Hegel, parce qu'il est à l'ordre du jour. Tandis qu'Aristote, oh, c'est la très très vieille réserve, et peut-être que là, le vin est retombé en piquette. Hein. Vous savez, d'un très bon vin qui retombe, c'est désastreux. Hein. Il est retombé, je viens, il n'y a plus rien. Et c'est ça Aristote pour beaucoup. Hein. C'était un très grand philosophe de son temps. Mais maintenant, vous savez, il y a beaucoup de poussière. Hein. Beaucoup, beaucoup. Je comprends que c'est très intéressant. Alors, mon jugement d'existence de foi, et la foi implique un jugement d'existence, hein. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est immédiat. Alors, par la foi, je comprends qu'il y a un jugement d'existence d'éternité, et donc actuel. Si je suis vraiment croyant en le Christ, mort et ressuscité, et je peux dire les deux, mort et ressuscité, la mort est actuelle, elle n'est pas passée. C'est comme ça que la mort est vaincue par l'éternité, par la résurrection. Elle ne serait pas vaincue par la résurrection si elle n'était pas actuelle. Ce serait du passé. Ou laisser la mort tranquille. Mais non, je ne peux pas laisser la mort tranquille. Parce que je sais que je mourrai. Je ne peux pas la laisser tranquille. La laisser tranquille, ce serait faux. Ce serait une abstraction fausse. Ce serait me mettre dans un monde irréel. Or, le monde réel, c'est celui de la foi. C'est celui-là qui est passé et est éternel, dans le Christ. Dans le Christ, il est tout ce que Jésus a vécu est actuel. Et il est pour moi. Et donc, ma foi me donne une certitude que le jugement d'existence existe. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai cité une réserve. Je ne m'en sers pas. Mais quand je commence à avoir des doutes avec Descartes, avec Kant, je commence à avoir des doutes, espèce d'imbécile. Fais un acte de foi. Tu verras que l'existence existe, que le jugement d'existence, il est présent. Vous voyez comment la foi peut venir confirmer le réalisme de mon intelligence. Et que seul le réalisme de mon intelligence me met dans la vérité. Ça, c'est l'apologétique suprême, hein. La grande apologétique, merveilleuse. Et c'est important, parce que nous vivons un monde qui fait que nous avons tellement de peine à dire que le jugement d'existence, mais oui, c'est ça. Et que le jugement d'existence porte sur ce qui est, en acte. Pas le passé, pas le futur, en acte. Parce qu'autrement, votre foi ne s'enracine pas dans votre intelligence. Votre foi devient idéaliste, coupée du réel. Alors vous avez deux mondes, le monde de la foi, le monde du temps. Non, on ne peut pas dire ça. Je vis dans le temps, j'existe dans le temps, j'existe maintenant. Et mon jugement d'existence porte sur ça. Mon ami, il existe, il est. C'est important, voyez, au point de départ de la philosophie et de la métaphysique, si on est chrétien, de comprendre ça. C'est tout ce que le Saint-Père nous dit dans son encyclique. Ça se résume à ça. Quelque chose de très direct. Et alors ça, c'est magnifique. Vous voyez, le chrétien qui vit sa vie de chrétien, grâce à son acte de foi, assume le jugement d'existence et permet de dire « Je suis catholique, donc je sais que mon intelligence est capable, transformée par la foi, de toucher ce qui est actuellement éternel. » Si je touche ce qui est actuellement éternel, le passé est dans le présent, le futur est dans le présent, parce que ce présent, c'est l'éternel. C'est impressionnant, ça, du reste. Et c'est grand, parce qu'alors, ça vous montre que vous ne pouvez pas reculer. Vous êtes coincé en tant que chrétien d'accepter ça, que le passé est actuel dans l'éternité. Autrement, l'éternité, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est l'abstrait. Vous n'abstrayez pas pour l'éternité tout ce qui s'est passé dans le temps. Non, vous l'assumez. Et ce jugement d'existence, comme croyant, vous posez. Donc, je pars de ce jugement d'existence à l'égard de mon ami. Parce que je ne veux pas perdre de temps. Alors, il y a une telle noblesse de l'être, que pour ne pas l'abîmer, je prends l'expérience en moi, qui est la plus forte. L'expérience la plus forte, c'est à l'égard de l'ami. Je t'aime, tu es mon ami. Alors, si vous n'avez pas l'expérience actuelle de l'amour d'amitié, c'est possible. Vous l'avez eu. Tout être humain a aimé sa mère. Et dans l'amour de l'enfant pour sa mère, il y a un amour d'amitié. Et si vous n'avez pas eu de mère, vous avez eu quelqu'un qui a été pour vous un soutien et qui a joué ce rôle. Et si vous ne l'avez pas eu, vous avez compris qu'il y avait un manque terrible. Et dans la vie actuelle, vous dites oui. J'ai survécu à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai d'autant plus soif de comprendre que l'autre n'est pas un étranger, que l'autre est quelqu'un capable de m'aimer. Et le jour où l'autre deviendra mon ami, je comprendrai ce qu'est l'être. Pour moi, c'est très important, vous voyez, d'essayer de voir toutes ces possibilités et de voir l'aspect actuel pour le croyant. Alors ne dites pas que ma métaphysique repose sur la foi, hein. C'est juste l'inverse. Mais la métaphysique peut très bien, elle a le droit de le faire. Elle doit regarder l'homme tout entier. Or, si je suis chrétien, je suis homme. Mon ami, s'il est chrétien, il est homme. Et donc, j'ai tout à fait le droit de dire, au fond, cette vie gratuite, qui est la vie chrétienne, dépasse étrangère à mon jugement d'existence. Il y a entre ma foi et mon jugement d'existence, une parenté radicale dans l'ordre de l'exister. C'est même la seule parenté qui existe. toutes les autres parentés ne sont plus aussi exactes. Là, il y a une parenté réelle dans une diversité radicale. La vie chrétienne me vient d'en haut. Ma vie humaine vient de moi. Le vivant, c'est celui qui se meut. Qui se meut dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre de l'amour. C'est très important au point de départ de considérer que la métaphysique, pour gagner du temps, ne commence pas par l'existence du crapaud, mais par l'existence de mon ami. J'ai parfaitement le droit de faire ça. Et aujourd'hui, je dirais, c'est nécessaire. Étant donné que le contexte historique dans lequel nous nous trouvons est un contexte de phénoménologie. Hegel a eu tellement, un tel poids pour beaucoup, et là j'ai le jugement de gens compétents qui sont des gens qui ont regardé toute la philosophie contemporaine avec beaucoup de force, de dire Hegel, c'est celui qui dit les réalités philosophiques avec la plus grande rigueur. Vous voyez, on ne dit pas que c'est le plus vrai, mais il parle avec la plus grande rigueur, la plus grande certitude. Tout son système est cohérent. Si j'accepte le point de départ, je mets le petit doigt dedans, tout y passera. Et tout y passe. Mais c'est au point de départ. Ai-je le droit de mettre mon petit doigt de me laisser prendre. Si je suis chrétien, ai-je le droit de le faire, d'identifier Dieu et moi, d'identifier ma connaissance et celle de Dieu. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Le chrétien dit non, le philosophe dit non. Et donc, dès le point de départ, je suis dans le désaccord. Et je cherche pourquoi je suis dans le désaccord. Confusion entre le jugement de foi. Dieu, c'est la connaissance de la connaissance. Dieu, c'est le contemplatif par excellence qui se contemple. Ceci est vrai pour l'intelligence divine, mais ceci n'est pas vrai pour mon intelligence. Dès le point de départ, je vois que je ne peux pas entrer. Mais revenons toujours à cela, parce qu'il y a la tentation permanente de nous laisser entraîner. Alors, mon ami, c'est celui qui est en présence de moi. Il existe. Qu'est-ce qu'il y a de plus particulier dans mon ami pour saisir son être, pour saisir ce qu'il est pour moi et ce que je suis pour lui? Je crois, je peux dire, la première chose qui m'intéresse en lui, c'est sa présence. C'est sa présence. Mais sa présence n'est pas son être, hein. Mais c'est sa présence. C'est curieux, hein. Alors là, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que le phénoménologue peut dire sur la présence. Qu'est-ce que je dis sur la présence? C'est important, vous voyez, étant donné la force de la pensée phénoménologique aujourd'hui, de regarder comment il y a d'une certaine manière un point de départ commun, la présence. la présence. Mon ami, c'est celui dont la présence est pour moi la plus forte. Vous voyez, quand Sartre arrive au café, il dit « Pierre est là ». Qu'est-ce qu'il cherche, la présence de Pierre ? Tous les autres individus ne s'existent pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que Pierre soit là. Et on dit « Il n'est pas là ». Donc, il n'y a rien, je vous néantise tous. Si Pierre était là, ce serait intéressant. Il n'est pas là. Hein, c'est très significatif, ça. C'est Pierre qui cherche. Et c'est Pierre qui donne la lumière à tout le reste. C'est ça, la présence. Quand quelqu'un est présent, ah, il est présent à moi. Et quand vous dites à votre ami, c'est curieux, aujourd'hui, tu n'es pas présent. Tu penses à autre chose. Tu es pris par autre chose, tu n'es pas présent. La présence. La présence, c'est cette relation mutuelle de deux personnes qui s'aiment, qui se connaissent, qui ont une même sensibilité. La présence, elle se fait par le regard. Ah oui, elle se fait par le regard. Regarde-moi. Si tu fermes les yeux, tu n'es pas présent comme je voudrais que tu sois présent. Parce que tu es loin. Et on peut affirmer, mais je suis présent profondément. Ah oui, mais aujourd'hui j'ai besoin d'une présence sensible. Le point de vue sensible joue pour la présence. Alors vous donnez la main. Je suis là, tiens, le toucher. La présence implique le toucher. Ça implique le regard, ça implique le toucher. Les deux sens extrêmes. Et tous les deux me donnent la présence. C'est extraordinaire, ça. Et pour la phénoménologie, c'est aussi la présence. La seule différence, c'est que la phénoménologie demeure dans la présence. Tandis que si je cherche ce qu'est l'être dans l'ami, l'être à l'ami, et Aristote dit l'être à l'homme, je précise l'être à l'ami, et ceci grâce à la phénoménologie d'aujourd'hui. C'est pas suffisant de dire l'être à l'homme. Il faut dire l'être à l'ami. Et ma métaphysique commence à ça. Alors, la présence de l'ami, c'est très très fort. Mais cette présence à l'ami, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui permet de comprendre la présence de l'ami ? Ou la présence à l'ami. C'est ce qu'il y a de commun. Quelqu'un qui est totalement différent de moi ne m'est pas présent. Il reste un étranger. Il reste l'autre. Et l'autre, par définition, n'est pas présent. Il est autre. Celui qui est présent, c'est celui qui communie avec moi. Dans toute présence, il y a une communion. Une communion profonde. Et le caractère de la présence spécifie le caractère de la communion. Je suis présent à toi, je te touche. Tu vois bien que je suis présent. Oui, tu es présent par le toucher. Si je ferme les yeux, ouvre les yeux, tu n'es pas présent. Je suis présent plus profondément par l'intérieur que par la vue. Et donc j'ai le droit de fermer les yeux. Non, tu n'as pas le droit de fermer les yeux, parce que pour moi, j'ai besoin de cette présence visuelle. Je ne suis pas encore arrivé à cette intériorité. Je vis encore dans mes sens. Alors, au point de vue de l'expérience, il y a une communication avec toi si tu me regardes. Tandis qu'autrement, il n'y a pas cette communication. Vous voyez comment la présence, si j'étudie ce que c'est que la présence, elle implique la communion avec l'autre. Quelqu'un m'est présent dans la mesure même, je suis en communion avec lui. En communion avec lui. Communion sensible, le toucher. Communion visuelle, la vue, le regard. Alors, est-ce que c'est le toucher qui est plus ou est-ce que la vue? Ça dépend des êtres, ça. Pour certains êtres, le toucher est principal. Pour d'autres, c'est la vue. Je me souviens de ce vieux père maître qui avait une expérience extraordinaire de ce que pouvaient être les liens d'amitié entre frères et qui me disait, c'est le regard. Regardez bien les jeux de regard et vous comprendrez tout de suite. D'autres, la présence implique de toucher. C'est très curieux, voyez. Il faut analyser la présence par la communion, le fondement de la présence. La présence est une relation. Je suis présent à quelqu'un et il lui est présent à moi. Et la qualité de la présence dépend de son fondement. Et son fondement, c'est justement la similitude. Je suis semblable à quelqu'un en acte. Parce que la présence exprime quelque chose qui est en acte. C'est pas suffisant, voyez, le souvenir. Oui, je me souviens. Le souvenir, c'est pas la présence. C'est la commémoration. En t'écrivant, je me rappelle que tu étais là à côté de moi quand on s'est quitté. Tu te souviens de notre dernier regard. Personne n'a rien compris, mais nous sommes regardés. Je te souviens des dernières petites caresses que je t'ai faites. Vous vous rappelez de la communion qu'il y a eu en acte. Mais le rappel n'est pas la présence. Un souvenir. Et le souvenir, c'est une présence qui n'est plus en acte, qui est gardée dans la mémoire, qui est gardée dans l'intelligence, qui est gardée dans le cœur. Il y a différents souvenirs. Il y a des souvenirs uniquement sensibles. Alors c'est tous les détails. Alors, vous vous souvenez pas tous les détails. Nous étions à l'ombre, sous un chêne, sous un... Très bien. Il y avait un banc qui était là. Tous les petits détails prennent une valeur extraordinaire parce que c'est le souvenir sensible. Quand c'est un souvenir du cœur, tous ces détails disparaissent. C'est l'amour qu'on avait. Quand c'est un souvenir spirituel, c'est l'intelligence de cette communion. Tu te rappelles, on communiait dans un très grand secret. C'est très important d'analyser, voyez, le fondement de la présence. Le fondement de la présence, c'est ce qu'on a vécu ensemble. C'est le vécu ensemble. Ah, je dis exprès, le vécu ensemble. C'est pour ça que le fémologue peut analyser admirablement ce vécu passé. Mais pour le fémologue, le vécu passé, c'est le vécu actuel. C'est ça qui est très curieux. Ça ne va pas plus loin. Le vécu passé et le vécu actuel est le même. Surtout quand c'est un vécu spirituel. Quand c'est un vécu temporel, non. Il n'est plus le même. Mais à l'égard du vécu spirituel, c'est le même. Je t'aime. Spirituellement. Je t'aime dans mon cœur, dans mon intelligence, tu es là présent. Et donc tu es présent dans ce vécu. Et c'est comme ça qu'on se rejoint. Mais c'est la commémoration. On est présent dans la commémoration. Je prends commémoration au niveau philosophique. On se commémore. On se mémore comme avec l'autre, ensemble. On se rappelle ensemble qu'on était présent. Et qu'on était présent par cette communion à l'égard du secret qu'on portait. Le revoir. Et on se rappelle le revoir, on le rend présent. On le rend présent comme un vécu spirituel. On se le rend présent intentionnellement. Il est présent intentionnellement. Et dans la perspective de la phénoménologie, cet intentionnel, c'est le réel. Pour le phénoménologue, ceci et ceci est, c'est la même chose. C'est l'intentionnel qui prend tout. C'est le spirituel, non pas la mémoire, hein, faisons attention, c'est pas suffisant. C'est plus, c'est l'intentionnel de l'intelligence et l'intentionnel du cœur qui est la réalité. Et on s'arrête là. Et c'est pour ça que la phénoménologie ne rejoint jamais l'être. C'est une philosophie de la commémoration. C'est très curieux. Hein? Et c'est très intéressant. Pour un protestant, l'Eucharistie est la commémoration de la scène. Pour un catholique, c'est la présence existentielle de Jésus. Vous voyez la parenté, et ça c'est toujours très important pour nous, la parenté de la phénoménologie et de la position religieuse protestante. Il y a une parenté. C'est pour ça que Bourgeois disait, c'est capital d'entendre Hegel dire « je suis luthérien ». La commémoration, c'est la présence. Et la commémoration est vécue intentionnellement, ou la commémoration est vécue comme quelque chose qui est le passé. Comme je ne peux pas avoir le présent, je me sers de ce passé pour ne pas oublier. Et si je suis croyant, je sais que ma foi permet ce contact d'éternité avec Dieu et la commémoration par le sacrement, devient la réalité. Seul Dieu peut faire que le passé est actuel, existentiellement. C'est le propre de l'éternité. Donc c'est le propre de la grâce. Et ce n'est pas le propre de ma connaissance. Et c'est très très important de comprendre ça, pour nous. Parce qu'on sent que le protestantisme pénètre dans la foi catholique et fait que cette foi catholique n'est plus catholique, parce qu'on demeure dans la commémoration, donc dans l'intentionnalité, et on ne touche pas le réel. Oui, c'est important de comprendre que la présence et le lieu de rencontre entre la phénoménologie et la philosophie réaliste. Et c'est la rencontre, la présence. Mais derrière le mot présence, je mets deux fondements différents pour une philosophie réaliste et pour une philosophie de la phénoménologie. Deux choses différentes. La présence, pour le phénoménologue, demeure dans l'intentionnalité, mais l'intentionnalité, c'est le réel. L'intentionnalité spirituelle est le réel. Pour le réaliste, l'intentionnalité demeure l'intentionnalité, même si elle est spirituelle, elle demeure quelque chose de passé. Elle n'est pas actuelle. Elle n'existe pas actuellement. Il faut dépasser la commémoration pour retrouver le jugement d'existence. La commémoration est un signe qui conduit à cela, mais il faut le dépassement. Alors comment dépasser la commémoration? C'est de comprendre que l'ami est là. Ou de comprendre que l'ami n'est pas là. Pierre est-il là dans la salle? C'est la grande question. Ce n'est pas la même chose de dire ceci et de dire ceci est. Ceci demeure intentionnel. Ceci est passe au réel. Et voyez, cela se fait à l'égard de la présence. Donc je crois que le premier moment pour mon entrée en philosophie première, le premier moment, c'est la présence de l'ami. C'est le rappel de tout ce que j'ai vécu avec lui, et la découverte que ce rappel, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. L'amitié, c'est la présence réelle de l'ami. Tant que l'ami n'est pas là présent réellement, je ne saisis pas son être. Je saisis le vécu, mon vécu. On a eu d'excellents moments. On a eu des rencontres admirables. On a eu des moments où on fusionnait, extraordinaire, oui, très bien, commémoration, intentionnalité, et il n'est pas là. Vous voyez le passage entre les deux. Alors je peux très bien, lui étant là, me rappeler avec lui tout ce qui s'est passé. Oh oui, oh, c'est très très bien, c'est une double joie. Mais c'est pas la même chose du tout, hein. De rappeler tout ce qui s'est passé, il est très loin. Il est très loin, je l'ai quitté. Je me rappelle tout ça, et je lui écris. Oh, c'est merveilleux, on était ensemble. Je lui écris, puis je lui écris dans une lettre. Je reste dans l'intentionnalité. Et je termine, quel dommage que tu n'es pas là. Mais en se rappelant tout ça, c'était merveilleux. Ah oui, mais il y a le réveil. C'était un rêve. Je me rappelle tout ça. Donc, ce rêve éveillé, pendant un certain temps, on a vécu tout ça, mais la réalité n'est pas là. Et je souffre d'autant plus qu'il n'est pas là. Tandis que s'il était là, on se rappellerait, puis on se regarderait, en s'arrêtant, se rappeler, mais tu es encore beaucoup plus avec moi maintenant qu'avant. Parce que toute la séparation qu'on a eue nous aide à mieux comprendre ce que c'est que la présence. Maintenant, tu es là. Jugement d'existence. Tu es là.